Je l'enregistre parce qu'il y en a qui peuvent pas être là. Mais en fait, c'est un petit mot. Ça m'a mis ça à cœur. On commence l'année. Puis le message en matin n'était pas à proprement parler, juste comme pour un début d'année, malgré qu'il y a quand même pas mal d'affaires qui s'y prêtaient. Je vous demanderai de tourner avec moi dans 2 Timothée, chapitre 2. Parce que, vous rappelez-vous, je vous ai envoyé ça. Dans le message envoyé, j'ai mis ce passage-là. Puis vous savez que quand on lit au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Mais ça ne peut pas vouloir dire « Ah, Timothée, t'as oublié qui est cette personne qui a marché en Galilée de ton époque. » C'est sûr que ça ne peut pas vouloir dire ça. Et donc, on va s'arrêter un peu sur le sens de ce que ça peut vouloir dire pour en tirer des applications. Il reste des moutons de glace là-dedans. La dernière fois qu'on a fait le repas du Seigneur, on était tellement pas beaucoup. J'ai dit « Je vais le garder. » Puis il est plein, là. Sauf que là, je l'avais mis au congélateur, puis j'ai pensé un matin. Il était un peu slouchy, mais attends, je vais le remettre dans le four. Excusez, en plus, c'est enregistré. OK. On va lire 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. D'abord, au verset 8, l'expression « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Vraiment, ici, l'idée, comme je le disais, ça ne peut pas référer à se souvenir « Voici, je me rappelle de cette personne ». C'est vraiment dans le sens d'être saisi par Jésus-Christ. Souviens-toi de tout ce qui est dans le domaine de Jésus. Souviens-toi d'où tu es sorti. Souviens-toi qui est ton sauveur. Prends jamais pour acquis. Reviens constamment à ça. D'ailleurs, quand on lit « Souviens-toi de Jésus-Christ », je pense qu'il faut comprendre toute l'idée du repas du Seigneur. On ne veut pas oublier la croix. On ne veut pas oublier comment c'est précieux. On ne veut pas oublier comment c'est notre raison de vivre. Comment c'est pour ça qu'on est... ici sur terre en tant qu'enfant de Dieu, c'est à cause de Jésus, puis c'est la croix, c'est la rédemption, c'est notre vie. OK, donc souviens-toi. On peut même le ramener à l'identité. Souviens-toi que tu es un enfant de Dieu, il est ton sauveur, il est maintenant, tu es uni à lui dans sa vie, parce que tu es aussi uni dans sa mort. On va revenir à ça dans un instant. Et donc, souviens-toi de Jésus-Christ, je dirais que... Puis là, je vais faire un peu de pouce sur ce que Amélie disait. D'une façon pratique aussi, ce que ça veut dire. Si je suis saisi par Jésus dans le moment présent, c'est ce qui va faire que je vais marcher par l'esprit et je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Par exemple, j'ai des inquiétudes, des peurs. J'ai une réponse charnelle que j'aurais donc le goût de laisser aller sur le pilote automatique demain. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est se ramener à ta peau. Non, c'est pas ce que je suis, ça. Ma chair, c'est pas mon identité. Ma chair, c'est pas ce qui me définit maintenant. C'est ce que Dieu a fait de moi. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est même dans le pratico-pratique du moment présent. À ta peau, je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté. Christ est ma vie. Je me souviens même dans le quotidien, dans le... J'appelle ça des fois la cruauté du quotidien, tu sais, le day-to-day, très... Tu sais, les petits-enfants qui chamaillent, puis à la job, on passe une affaire après l'autre, puis OK... Souviens-toi de Jésus-Christ à ce moment-là. Comment? Parce que lorsque je me souviens de Jésus de cette manière-là, ça va contrecarrer la sollicitation de la chair. La chair me sollicite. Puis c'est quoi le péché? C'est oublier Dieu. C'est faire comme si Dieu n'était pas là. Puis pas l'oublier de façon absolue, mais... Ah, OK, tu sais, puis la chair, le péché, puis souvent... Les chrétiens, en général, je dirais à ceux que je parle ici, là... Je pense pas qu'il y a des gros péchés flagrants, habituels, puis tu sais, on parlait de la chair dégueu, là, les affaires. Je pense pas que c'est des pratiques très courantes, mais souvent on pêche par, ben, on l'a pas mis, comme tantôt notre soeur disait, en haut, on peut avoir mis quelque chose au-dessus. Il peut y avoir toutes sortes de façons d'oublier et de prendre pour acquis, puis agir sur le pilote automatique de la chair. Donc, souviens-toi de Jésus-Christ, c'est aussi ça. Et je pense qu'il y a un tournant aussi par rapport, là, je suis toujours dans la même thématique de souvenir de Jésus-Christ. Tu sais, les belles années du COVID, quand tout était beau avec la communion fraternelle, puis on était tout en feu, puis tout ça, puis il y a des, je dis, belles années du COVID, parce que Dieu transforme mal en bien, là. Il y a eu bien aussi des affaires poches, là, et des gens sauvés, des gens touchés par le Seigneur, qui arrivent à l'Église, puis... On n'est pas appelé à vivre dans la nostalgie, puis de toute façon, on peut aussi, on peut avoir une mémoire sélective, parce que quelqu'un pourrait faire le même moment et dire, « Ah oui, le COVID, je ne veux plus revenir là, c'était assez poche, là. » Puis bon, OK, ça dépend de quoi qu'on se rappelle. Mais tu sais ce que je veux dire, c'est souviens-toi de Jésus-Christ, c'est pas essayer d'être nostalgique, puis essayer de revenir dans le passé, les belles années qu'on a eues, puis tout ça. Non, souviens-toi de Jésus-Christ, il a été fidèle, il a fait des choses, mais le même Jésus, dans le présent, peut en faire, encore faire des choses belles, extraordinaires, et qui ont son sceau d'authenticité. Donc, c'est ça l'idée de souviens-toi de Jésus-Christ. En gros, là, si je dirais, mon mot, là, ça tourne autour de ça, parce que je voulais tout faire ça. Puis en passant, je voulais te dire, j'ai fait une session de thérapie jeudi passé. Fait que, tu sais, je suis une thérapie. Fait que, en thérapie, ça m'a donné des conseils. Wink, wink, il y a une personne dans la salle qui comprend. C'est quoi la thérapie, Pascal? Yes! Oh. Moi, quand je vais en ski de fond, là, tu sais, je fais des jokes, mais ça me fait tellement du bien. J'étais avec le Seigneur, je prie, je loue le Seigneur. C'est comme une thérapie. Ça fait du bien à mon cœur, puis je me réjouis dans le Seigneur. Puis souvent, le Seigneur me parle, me dirige des affaires. Fait que le Seigneur m'a mis ça en cœur quand j'étais en ski de fond, justement.
C'est la
terrasquie. Oh! La terrasquie. Oh, la terrasquie. Hey, là, je vais me souvenir de ça.
Théoski.
Théoski, ouais, aussi, c'est des théologiques. Mais. Tout ça pour dire que vraiment mon idée c'était par rapport à souviens-toi de Jésus-Christ. C'est le repas du Seigneur. Puis c'est simple comme pensée, mais qu'on ait ça juste de planter là, chacun, pas juste ici, mais dans le cœur, souviens-toi de Jésus-Christ. Il y a quelque chose là qui est vraiment précieux. Pensez à ça. La vie chrétienne, c'est jamais compliqué. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, hey, faites attention que vous ne soyez pas séduits et que vous soyez détournés de la simplicité qui est en Jésus. Juste se souvenir de lui. Se souvenir de lui dans le train-train quotidien, dans le brassage des épreuves, dans n'importe quand. Se souvenir de lui. C'est la clé pour marcher par l'Esprit. Parce que quand on se souvient de lui, on se confie en lui, on dépend de lui. Puis c'est ça, marcher par l'Esprit. Mais j'ai un petit peu d'autres choses à vous dire. Voulez-vous que j'arrête là ou...
Ouais.
OK, tu voudrais que j'arrête là, OK. Maxime, il est tout le temps... Non, OK, juste quelques petits commentaires, puis là, c'est, je ne vous fais pas un développement systématique des versets qu'on a là, mais au verset 9, ça parle de la parole qui n'est pas liée. Et là-dessus, ça m'a parlé, M. Tremblay, qu'on va voir, je ne sais pas quand, puis M. Tremblay, c'est très général au Québec, le M. Claude Tremblay de Jaspe. Lui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, puis ça a touché aussi pour le témoignage de Cindy, parce que lui, il croit, il dit, on laisse tout le temps un évangile de Jean aux gens à la porte, et il dit, la parole de Dieu... C'est la parole vivante. Puis, tu sais, si on laisse ça, Dieu peut se servir de sa parole quand même qu'on n'a pas pu parler aux gens. Puis, tant mieux quand on peut lui parler, puis tout. Mais, tu sais, on laisse la parole qui ne revient pas sans effet. Puis, la parole n'est pas liée. Tu sais, Paul écrivait, puis bon. Lui, disons qu'il en a vu des vertes et des pommures, puis il a été plus qu'une fois en prison. Mais la parole, l'évangile n'a pas été liée. Puis, c'est le matériel brut de Dieu, la parole de Dieu. Comme ça que Dieu sauve. Hein, avec la conviction de la parole, puis c'est aussi le matériel brut du discipulant. Le Saint-Esprit, c'est qui le faiseur de disciples? C'est Jésus, le Saint-Esprit. C'est lui qui forme. Ça, quelqu'un me dit une phrase à un moment donné, il dit, il ne faut pas sous-estimer la capacité du Saint-Esprit de faire des disciples. C'est lui qui fait des disciples. Vous savez quoi, je me suis pris longtemps pour le Saint-Esprit. En prenant le fardeau de faire des disciples, j'ai deux exemples devant moi. Ça n'a pas tout... Ça a donné, par la grâce de Dieu, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait, mais il y avait, tu sais, le côté de moi humainement, c'était poche, hein? Avouez, là.
C'était pas toute poche.
Ben, c'était pas toute poche, mais il y avait du poche. Ouais, non, mais, il faut être délicat. Non, mais je veux pas. C'est que, il y avait trop d'humain là-dedans. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça que je voulais dire. Non, parce que, hey, gloire à Dieu, là, tu sais, puis tout ça, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, mais dans le sens que, tu sais, le côté humain dans le discipulat, il faut que ça se tasse du chemin. C'est Dieu qu'on veut, tu sais. Puis évidemment, il y a l'instrumentalité humaine, là. Le mentorat, le discipulat et tout ça, donc. La parole est polie, elle est toute suffisante et a fait une œuvre extraordinaire. Au verset 10, qu'est-ce qu'on peut lire? Ce n'est, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il dit ici, je souffre tout. Pourquoi? Parce qu'il ne souffrait pas comme ceux qui n'avaient pas d'espérance. Il savait que ce n'était pas en vain qu'il souffrait. Savez-vous quoi? Je fais une promesse, là. On ne va pas avoir tout ce qu'on pense qui va arriver en 2026. On a peut-être des idées, on a peut-être un plan, on a peut-être écouté les actualités. Dieu sait c'est quoi qu'on a. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de le savoir. Puis si on essaie, on va probablement se tromper. Ça, on peut perdre bien du temps avec des gens qui disent ci puis ça. Là. Depuis 2020, là, des fins du monde, puis des ci, puis des ça, il y en a eu hein, une puis une autre. Là. Puis des, c'est là, on m'a dit, oh, crise économique, là, ça va arriver. Puis tu sais, des prophètes de malheur, puis des affaires, il y en a à tous les sauces. Là. Mané, c'est un divertissement, là, si tu en entends un. Puis, mais moi, je veux dire, on décide avec quoi qu'on perde notre temps. Là. Tu peux jouer à Candy Crush ou tu peux écouter des conspirations là, de gens qui disent à peu près n'importe quoi.
Faire les deux en même temps.
Ou faire les deux en même temps, c'est vrai. Mais on n'est pas sans espérance. On sait que ce n'est pas en vain si on souffre. On sait que ce n'est pas en vain si on marche par la foi puis qu'on fait confiance en Dieu puis qu'on sort de la zone de confort. Parce qu'on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'au bout du compte, on est convaincu que Dieu va nous rendre, à travers tout ce qu'il permet, semblable à son Fils. Que ça va produire Christ en nous. Que Dieu forme Christ dans nous, son peuple. Ça, on sait. Ça, on peut être certain. J'entends un téléphone. C'est quoi? Hein?
C'était
Ah, c'était vous autres?
C'était
okay.
Mes parents, lui, bosse. Okay.
OK. Puis, j'ai pas encore pour beaucoup, mais je veux juste vous partager deux, trois petites choses pour terminer. Et là, ici, Paul, qui utilise une expression qu'il utilise quand même assez souvent avec Timothée, là, cette parole est certaine, ou des fois, il dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Et voici ce qu'il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Je vais juste m'arrêter là-dessus. Si nous sommes morts avec lui, ça parle de notre union avec la mort de Christ, comme dans Romains 6, parce que Paul n'était pas mort quand il écrivait ça. Puis il parlait de souffrir, OK, ça peut aller jusqu'à la mort, mais tu sais, il dit « si nous sommes morts ». Moi, je pense vraiment que Paul parle du fait d'être mort au péché, vivant pour Dieu, mort avec Christ, puis tu sais, notre union avec Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, puis même on peut dire son ascension, son couronnement. On est unis à Christ. Mais quand ça dit aussi, nous vivrons aussi avec lui, c'est pas juste pour le futur, ah, un jour on va être au ciel, puis on va être avec Jésus, puis ça c'est vrai, puis c'est super, j'ai hâte. Mais aussi, si on accepte la mort, on va vivre la vie de Jésus. Et ça, tu sais, quand je disais tantôt, souviens-toi de Jésus, c'est ça. Quand Dieu nous fait passer par la mort, puis en passant, c'est une loi spirituelle, universelle. Il n'y a pas de vie surnaturelle de Jésus sans la mort. C'est vrai à la croix, n'est-ce pas? Fallait que Jésus meure pour qu'il ressuscite. Mais pour nous, qu'on vive la vie échangée, qu'on vive la vie surnaturelle de Jésus, il faut qu'on accepte la mort à nos ambitions, à notre volonté, à ce que nous, on veut. Puis laisser Dieu faire, par la foi, on l'accepte. Puis là, Dieu va faire ce que Dieu fait, le surnaturel. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. C'est le secret de la vie chrétienne victorieuse. C'est d'accepter la mort. C'est plate, la mort. La mort, c'est la séparation. De se faire rire de nous autres par la famille. De se faire rejeter. De se faire mal comprendre. Des fois même par des enfants de Dieu. De se sentir seul. De payer le prix d'être missionnaire, loin de la famille. Il y a tout des domaines de mort. Mais Dieu, c'est à partir de ça qu'il fait ressurgir sa vie. Le grain qui tombe en terre... S'il reste là tout seul, il ne va pas rien faire. Mais quand il y a la mort qui arrive, là, il va produire du fruit. Et c'est un principe, je vous dis, c'est une loi spirituelle universelle. Ça marche comme ça. Ben là, j'aimerais aller dans Ésaïe 43. Puis Maxime, même si tu ne veux pas, on y va pareil. OK? Parce que Maxime, il n'aime pas ça, le livre d'Ésaïe, lui. Non, j'ai juste deux petits versets, puis ça va être pas mal dans ma conclusion. une certaine forme d'allégorie quand je dis conclusion, parce que quand même, je n'ai pas tout de suite fini, mais... Verset Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleurs dans la solitude. Lukrul Noi. C'est un cantique que ma femme aime beaucoup, qui est basé sur le verset 19. Je vais faire toutes choses nouvelles. Puis, c'est un cantique roumain, là. Lukrul Noi, c'est pas du québécois, là. C'est du roumain. Mais, ce que je vois là-dedans, juste le contexte, il dit, vous avez été délivré d'Égypte, là. OK, verset 18, le passé, puis tout ça. Ben là, je vais faire toutes choses nouvelles, je vais vous délivrer aussi de Babylone. Fait qu'en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'idée, ce que je veux vous amener, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur les délivrances passées. Dieu a fait des choses dans le passé, merci Seigneur, puis on a eu des victoires, Dieu nous a montré des choses. Mais on va dire, OK, Dieu nous a sortis d'Égypte, on n'est plus esclaves du péché, on est sauvés, OK? Merci Seigneur, on est... Mais notre appui pour l'avenir, c'est Dieu qui va faire des choses nouvelles. Ou pour prendre une illustration, le bois de l'autel de Élie, une fois que ça a servi, Dieu avait fini avec ça. Dieu le faisait passer à d'autres choses. Alors, il avait fait tomber le feu du ciel, il avait des choses extraordinaires, mais là, après ça, il y avait d'autres choses pour Élie. Fait que c'était fini, là, le feu qui tombe du ciel. Maintenant, Élie, j'ai d'autres choses pour toi. Vous savez quoi? C'est ça qu'elle a nous dit, Élie. Ah, là, je fais tomber le feu du ciel. Tout le monde va venir à Dieu, puis ça va être super. Non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Même si tout le monde a dit, hey, c'est l'Éternel. Non, c'est du quoi, Élie? Ça faisait partie de mon plan, mais c'est pas la fin de mon plan. C'était dur à accepter pour Élie. Le feu avait tombé, puis tu sais, mais non, là, ce bois-là, c'est fini. On passe à un autre appel. Et c'est ça dans nos vies aussi. Le bois de l'ancien autel de nos exploits, ce que Dieu a pu faire à travers nous autres, puis tout ça, merci Seigneur, mais c'est pas notre confiance, c'est l'Éternel notre confiance. Comme un des passages que j'aime tellement, avec Ézéchias qui est entouré, la ville est à la merci de ses ennemis, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement invoquer l'Éternel, puis dit, Dieu, nos yeux sont sur toi. Il était entouré d'ennemis, mais ses yeux étaient sur celui qui donne la délivrance. Ou pour le mettre dans les mots du Nouveau Testament, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, où la Louis II, 79, dit, « Celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » Et, excusez, je veux pas, j'avais mis ça. Non, OK. Je veux maintenant vous amener un petit quelque chose par rapport à tout ça. On peut pas s'appuyer sur le passé. Bon. Ça veut dire qu'il faut marcher par la foi. Pas dans la foi dans ce qu'on a fait, mais dans la foi de ce que Dieu veut faire. Donc, on a des pas de foi, je crois, que le Seigneur nous appelle à prendre. Ça, je peux le dire avec certitude. Le juste vivra par la foi, là. Mais pour être un peu plus précis, on parle de jeunes qui sont appelés au ministère, des jeunes qui cherchent la volonté de Dieu pour leur vie. C'est par la foi qu'on va avancer là-dedans, qu'on va les épauler, qu'on va se laisser diriger pour ce que Dieu a avec nous autres. Ministère d'évangélisation, ministère de prison, école du dimanche, évangélisation. Ce ne sont que des exemples ici d'église. Puis ça, c'est comme évident, comme église, OK, on marche par la foi là-dedans, mais je veux amener un dernier point, c'est avec ça que je vais conclure. Là, c'est vrai, là. OK, la foi, on parlait d'Ézéchias qui était entouré puis qui regardait à Dieu. On pourrait parler négativement de Pierre qui a regardé aux vagues au lieu de regarder à Jésus. Le pas de la foi, c'est aussi... Puis là, je veux dire, on peut-tu dire ça, focus en français? Ou la concentration? Le focus, c'est là où on porte notre attention. Si je dis focus, tout le monde comprend de toute façon, là. OK? L'importance du focus. Puis là, vous allez voir, il y a un lien avec le repas du Seigneur, là, fait que je vais tout boucler la boucle. Mais je donne juste un exemple. Parce que là, on parle, bon, comme église, puis tout ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mais aussi d'abord dans nos vies personnelles. Savez-vous quoi que, mettons là, vous avez un péché, de la misère avec, des craintes qui vous reviennent tout le temps dans le cœur. Si vous focussez là-dessus, vous êtes garanti de ne pas avoir la victoire. Parce que dire, hey, je veux le vaincre, je ne veux plus avoir ça dans ma vie, bien, votre focus est pareil sur le péché. Vous n'en voulez plus, mais vous regardez à ça pareil. Le focus, c'est regarder, OK, Seigneur, tu le connais ce péché-là, tu sais comment ça fait des années, tu sais comment ça me prend au cœur, tu sais comment ça me fait peur, tu sais, Seigneur. Donc, on le reconnaît, là, on ne fait pas semblant qu'il n'est pas là. Enfin, quand je dis pas focusé, ce n'est pas le renier qui est là. Mais Seigneur, là, c'est à toi. Pendant toutes ces années, j'ai essayé. Là, c'est à toi. Je regarde toi, Seigneur. C'est rien pour toi. Toi, tu es capable. C'est à toi que je regarde. C'est mon ennemi qui entoure ma ville. Mes regards sont sur toi. Ça a marché avec Ézéchias, avec une armée. Pensez-vous que ça ne peut pas marcher avec nous autres? Hein? Donc, la question, c'est vraiment regarder à Jésus, c'est le focus, là où on garde notre attention. Est-ce que quelqu'un peut me dire par cœur, Sébastien, tu connais la Bible par cœur, toi? 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec, en même temps que la tentation, il pourvoira aussi le moyen, ça c'est Jésus, afin que vous puissiez la supporter. Donc, il arrive une tentation, on ne sait pas quoi faire. Au secours, hey Seigneur, ça va être au-dessus de mes forces. Dieu dit, non, Jésus est là. En même temps que la tentation, la question c'est où tu regardes. Tu regardes-tu à ta tentation ou tu regardes à Jésus? C'est ça l'idée du focus. Si on est fixé sur la tentation à dire, il ne faut pas que je regarde ça, il ne faut pas que je le fasse, il ne faut pas que j'aie peur de ça. Notre focus, même si on ne veut pas ça, notre focus n'est pas à la bonne place. On s'en va vers la chute. Parce qu'on ne prend pas le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est regarder ailleurs, enlever les regards sur ce qui me tente, ce qui me fait trébucher, puis simplement regarder à Jésus. Ça, c'est le moyen d'en sortir. Puis en 2026, puis on commence ça, je veux qu'on comprenne que ça, là, dans le fond, j'ai dit quelque chose qui peut être dans notre vie personnelle, mais comme Église aussi, là, regarder ensemble à Jésus. Puis tu sais, on a le repas du Seigneur, puis je le dis souvent, c'est important, centrer sur Jésus. Mais il y a quelque chose que je trouve beau que le Seigneur fait dans l'Église, puis je veux que ça continue parce qu'on n'est pas parvenu. Un chrétien qui dit qu'il est parvenu, là, il n'est pas très mature, puis il est pas mal aveugle. Parce qu'on n'est jamais parvenu, on a tout le temps besoin d'apprendre. Quelqu'un qui vous regarde de haut, là, soit de sa théologie ou de ses exploits passés, vraiment, il est peut-être très insécure, puis il essaye de prouver quelque chose. T'sais. Quelqu'un qui sait vraiment qui il est. En passant, l'humilité, c'est pas « je suis rien », c'est « j'ai rien ». Parce que la réalité, c'est « je suis un enfant de Dieu, je suis pardonné, on est des belles choses par Dieu, mais on n'a rien. » C'est Jésus en nous qui a tout. Okay? Mais pour amener avec, puis ça, c'est vraiment le point avec lequel je termine, parce qu'on arrive au repas du Seigneur. Tu peux répondre, hein? C'est pas, ou texte-les, je sais pas. Vas-y, une grimace par...
Vas-y, des petits bonhommes fâchés.
Comme ça. Des petits bonhommes fâchés. Fais des petits bonhommes fâchés, ça règle tous les problèmes, ça. OK, hey, je veux pas perdre mon focus. Donc, il y a un aspect personnel, mais aussi un aspect ecclésiastique à focusser sur Jésus. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu, je disais, là, que c'est beau ce qu'il fait dans l'Église, sans se péter les bretelles et tout, mais je trouve que Dieu cultive un esprit d'authenticité puis de liberté d'être tout pas... On n'est pas obligé d'être tout correct. On n'est pas obligé d'être pick and span. Là. Ça, c'est une belle chose que Dieu développe une culture de justement pas être parvenu. OK? Puis qu'on n'a pas peur. En tout cas, Dieu... Je pense qu'il a brisé la puissance de cette peur-là, puis il continue d'en enlever des morceaux. La peur face à l'autre, face à mes faiblesses, face au rejet de l'autre, parce que, tu sais, Dieu, c'est un œuvre qui fait, puis c'est beau. Mais je pense que comment il va continuer par rapport à tout ce que j'ai dit? Le focus sur Jésus. Tu sais, quand quelqu'un, mettons, qui vient me voir, ou moi, je vais voir quelqu'un, avec des choses que j'ai honte, ou que je suis vraiment découragé, tu sais, les affaires poches de la vie, là, ou complexe, je sais juste pas quoi faire avec. Pis... La seule chose, pensez à ça, la seule chose qu'on a besoin, là, c'est ensemble d'avoir le focus à la bonne place. Souvent, quand on, des fois, comme chrétien, on a de la misère à savoir ça, c'est qu'on reste focusé avec l'autre personne sur le problème. Fait que là, on est deux avec le problème, puis là, il y en a un qui se sent rejeté, puis l'autre qui se sent... Il ne se sent pas mieux. Parce que les deux, on n'a pas porté les regards sur Jésus. Et donc ça, voyez-vous comment c'est simple? Juste regarder. Moi, des fois, comme je dis, des fois, des histoires, des fois, là, en prison, là, hey, c'est du monde m'a gagné de la vie, là. Vous seriez des fois surpris comment il y en a qui ont passé par des affaires. Ça ne l'excuse pas ce qu'ils ont fait, là. Mais je veux dire, tu en as qui parlent avec trois balles, deux prises, pareil. Là. Ça prend pas grand-chose, puis, tu sais, ils sont out. J'aime ça, des fois, je dis, veux-tu qu'on invite Jésus dans ta situation? Juste de même. Tu sais, je fais pas un petit plan du salut, puis tout, mais... Veux-tu qu'on demande à Dieu de s'impliquer dans ce que... Puis des fois, là, juste de voir physiquement la réaction des gars, c'est... Hein, qu'est-ce qu'ils viennent dire là? C'est comme, ils ont pas vu ça venir. Mais n'est-ce pas simple de même? N'est-ce pas de même pour tout le monde? On veut que Jésus, que Dieu s'implique dans tous les aspects de la vie. C'est pas plus compliqué. Fait que c'est ça. Souviens-toi de Jésus-Christ. Je l'ai bouclé ma boucle. Puis là, on va le faire ensemble avec... Puis là, comment on appelle ça? C'est, je sais qu'il y a le mot, évidemment, ordonnance du Seigneur, mais c'est pas le mot liturgie, mais en tout cas, c'est pas un rituel non plus, là. Comment on appelle ça? On fait le repas du Seigneur, là. On fait le... pas une cérémonie, en tout cas. On veut pas sonner trop comme une autre religion, mais en tout cas, célébration, hein?
En anglais, on peut dire ordonnance.
L'ordonnance, oui, ça fait un peu sec, là. Dans le sens, célébration, on célèbre ensemble la croix. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On remet notre focus ensemble sur Jésus. Puis je suis de cette conviction. Je pense pas que Jésus est dans l'Eucharistie, là, OK? Puis je suis pas catholique ou transsubstantiation. Je suis pas consubstantiation ou transsubstantiation. Là, je suis pas luthérien ni catholique. Mais je crois que quand que le peuple de Dieu, comme ça, se rassemble puis qu'il focus sur Jésus, je pense qu'il y a quelque chose de spécial de la présence de Dieu qui est avec nous. Ça plaît à Dieu, là, quand tout le monde ensemble, on focus sur la croix. C'est un moment unique et spécial, donc chérissons-le, célébrons-le en toute simplicité. Puis c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen.